Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Fisiole, substantif.
Qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine
les
de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des lois établies.
Ballon, mine, vitre qui
l'abondance
éclate.
De cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
des gamins
de la procédure normale et licite.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
m'éclatait de l'institution
et de leur manière
il ne serait pas du cavaleur.
D'un choc ou d'un changement
de l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un
troubles menstruels fréquents.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Cher menstruel, c'est avec une grande fébrilité que j'attends vos lettres. Je voudrais vous emmener toutes dans ma voiture pour partager un road trip vers nulle part, mais je suis pas sûre que ce soit très prudent. Bon, après tout, c'est quoi être prudent? C'est quoi prendre des risques? J'attends vos réponses parce que moi, je ne sais plus. Moi, en voiture, j'ai les tripes à l'air. Je suis obsédée par... J'en ai une peur bleue. Je joue des castagnettes. J'ai les poules, j'ai les jetons, j'ai les foies. J'en pisse dans ma culotte. Je suis verte de trouille. J'ai les chocottes, j'ai la pétanque.
Tu pourrais accrocher des trucs à ta voiture? Des petits doudous? Mais ça ferait qu'elle aurait plus peur. Peut-être.
Ouais, effectivement, je crois que ça marche un peu, les doudous. Moi, j'en ai plein accrochés dans John. John, c'est ma voiture, c'est mon confident. Je l'aime beaucoup et je crois que j'arrive un peu à lui faire confiance. Mais je crois qu'il faut d'abord que je commence par vous raconter le début.
Oups. Mon matelas, là. Putain, une poubelle, cette bagnole.
Chaque trajet que je fais commence par une préparation minutieuse de l'itinéraire. Rien n'est laissé au hasard. C'est une sacrée logistique.
Page 117. Je prends la D945 jusqu'à Souvigny. Après, je prends la petite blanche, la 253 jusqu'à Saint-Menu. Et là... Et non, là je suis niquée parce que je tombe sur la nationale et je suis obligée de...
Moi ce que j'aime c'est les petites routes blanches, pas les jaunes et encore moins les rouges. L'autoroute même pas en rêve. J'aime les petites routes qui vont chez les gens, dans les lieux dits, dans les hameaux. Les routes mal entretenues où on se croise à peine. Ça importe peu vu qu'on ne croise pas grand monde. Je peux y observer le paysage, les maisons, les animaux. Ce sont mes chemins de traverse. Patiemment comme ça, j'agrandis mon territoire.
La Croix-Rouge, Saint-Plaisir. Voilà, ça passe. Ça fait faire un détour de ouf, mais...
Ensuite, je fais les niveaux, j'inspecte mon moteur, je traque les pannes. Et puis j'organise mon hôtel. Le tableau de bord de John est chargé de breloques ésotériques venant des quatre coins du monde. Il y a des vierges en plastique et des autocollants porte-bonheur. J'ai besoin de convoquer le magique dans ma voiture pour me protéger des aléas du destin.
Elle est où la tête de mort? Elle s'est cassée la gueule. Merde.
Lorsque j'ai accompli tous mes rituels, je peux enfin démarrer.
Okay. Bon allez, si bon, on y va. T'es prêt, Johnny?
Oui.
Vous êtes tous prêts?
Oui.
Ok, on va. Allez, c'est parti.
Cher Nina. Pour moi, tu sais, la bagnole, c'est avant tout une histoire de famille. Je m'appelle Émilie Route, Mes parents sont moniteurs auto-école, mes grands-parents étaient moniteurs auto-école. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans des voitures. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller enregistrer ma maman, qui travaille encore, qui est monitrice auto-école. Et cette fois-ci, ben, j'ai repris la place que j'avais quand j'étais une petite fille, à l'arrière. Pendant ses leçons. Là, on s'est pris la bagnole de derrière.
Doucement. Je passe grenier.
Là, on calabre un stop.
C'est pas ça, c'est quoi le boulot qu'on a mis là ? Un stop, est-ce qu'on a fait un stop ?
Non.
Et pourquoi on l'a pas fait ? Un stop, ça, il ne faut même pas se poser la question. Il y a du monde ou pas ? C'est l'arrêt complet, quoi qu'il arrive. Ça vous fait pas peur une voiture comme ça, là, on va aller à gauche ?
Ma mère a travaillé jusqu'à son accouchement, et à chaque fois que je monte dans une voiture, je m'endors. Peu importe la durée du trajet. Enfin, pas vraiment cette fois-ci, quand même.
Si vous faites rien, on va bouffer le pot. Enfin, à gauche. On ira à gauche.
Là, le mec dépasse par la droite en s'insérant sur une voie rapide.
Ne le dépassez pas par la droite à lui, là. Clignons à gauche. Mais quand même, mais qu'est-ce que vous allez nous faire, là ? Vous allez remonter à droite, hein ? Il faut arrêter d'accélérer quand je change la vitesse, c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc, on va se faire couper. Hein. Lui, on va le dépasser quand on aura vu qu'il n'y a personne pour déboîter. D'accord ? Dans le monde, c'est je contrôle. Je signale et après éventuellement je déboîte.
Là j'ai peur. On va trop vite et le mec sait pas conduire.
À combien on peut rouler là ? Quand vous voulez, vous voyez qu'il y a des trucs que vous arrivez à me faire. Par contre, la rocade, on a failli mourir. Hein. Vous vous rendez compte quand même. Bon, alors ça, c'est bien déjà. Après, voilà, c'est tout bête. On n'est pas obligé de se lancer si on ne peut pas. Et puis, il y a des règles à respecter. On ne va pas cantonner sur une voie d'accélération, remonter la voiture qui est sur la voie rapide par la droite, quoi. Surtout qu'elle était, voilà, elle venait de sortir elle aussi. Hein. Donc vous allez vous lancer de manière à vous caler effectivement derrière elle. Et puis après, on n'est pas obligé de dépasser direct. Si on ne peut pas dépasser, ouais. On ne dépasse pas. Il faut voir, il faut toujours avoir vu avant de faire quoi que ce soit.
D'accord.
Et on a l'impression qu'il y a des moments en fait où ça vous inquiète et vous perdez des moyens ou en fait vous ne vous rendez même pas compte. J'aimerais. C'est ça que j'aimerais savoir, parce que je ne sais pas. Parce que vous êtes capable, vous avez vu quand je vous ai dit pour déboîter, après vous me l'avez fait. Oui. Seulement voilà, il ne faut pas que ça soit que ponctuel comme ça, il faut que ça soit systématique. Oui. Il faut que vous pensiez à votre sécurité en premier, et après il faut que vous pensiez aux autres, qu'on n'est pas seul sur la route.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Je vous rends votre cahier là comme ça.
J'ai flippé.
Et je m'en doutais. Le problème, c'est que ces conduites accompagnées, je te dis, ils sont trop jeunes et ils n'entendent pas que... Ils n'entendent pas qu'ils puissent mourir comme ça, quoi. En fait, il faut s'adapter à la personne. C'est-à-dire qu'il y en a certains, si tu les secoues trop, ils vont se bloquer.
Ouais.
Ça va rien faire. Hein. Et t'en as d'autres, effectivement, il faut les remuer. Celui qu'on a eu avant lui, par contre, il faut le tenir. Il faut rien laisser passer parce que lui, il a de la gueule. Et ils n'ont pas de notion de danger dans le sens où ils sont à un âge où on est immortel, quoi. Alors, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris la succession de tes parents?
Complètement.
Tous les jours,
hier, j'ai explosé un rétro. Je rentrais, il faisait nuit. Une voiture arrive en face, je serre à droite, sans ralentir. Paf! J'ai été surprise par le bruit. J'ai ouvert la fenêtre, passé mes doigts à la surface du miroir. J'ai senti tous les éclats. Chère Nina, on ne se connaît pas vraiment, et le peu de fois où on s'est croisés, je t'ai trouvée plutôt intimidante. J'avais l'impression que rien ne pouvait t'arrêter. Alors, quand t'as proposé de questionner sur mon rapport à la voiture, c'était il y a 5 ans. J'embarquais avec une meuf que je connaissais peu. Elle m'a expliqué qu'elle prenait pas l'autoroute, que au-dessus de 90 km/h, elle se sentait pas à l'aise, que cette vitesse c'était pas naturel. Ça m'a étonnée. Moi, je prenais rarement l'autoroute, mais plus pour des raisons politiques. J'avais jamais trop réfléchi à cette histoire de vitesse. Le temps est passé. À cette époque, on était presque toujours sur la route, en voiture, en camion, la caravane au cul, à chanter à tue-tête. On se sentait chez nous. Et puis un jour d'été, je me retrouve à conduire un minibus pendant un séjour adapté. On revenait du Puy du Fou, véridique. À bord, il y avait 8 personnes en vacances, fatiguées, impatientes de rentrer dans un lieu familier, ne sachant pas conduire. Tout était calme, ça roulait bien. Je faisais un bon 130 sur l'autoroute, concentré. Et là, les pointillés blancs se sont mis à filer dans l'autre sens. Je me suis sentie hypnotisée, j'ai eu un vertige et une baisse de tension. Comme si tout mon sang quittait mon cerveau pour se retrouver dans mes talons. Cette sensation, je la connais bien. Je fais souvent des malaises et je sais qu'à l'étape d'après, je tombe dans les pommes. Mon corps est secoué de convulsions et fait des bruits bizarres. Bref, en un millième de seconde, je dresse le tableau. À cette vitesse, plus personne au volant. Il y a de grandes chances que tout le minibus y passe. L'angoisse. Sans savoir comment, un truc s'est enclenché dans mon corps comme un programme de pilotage automatique. Mes mains ont serré le volant et mon pied a lâché l'accélérateur. Par chance, on arrivait à un péage. J'ai prévenu les collègues dans l'autre véhicule. Pareil que j'étais pivoine. Après ce jour-là, je supportais pas la vitesse. Dès que je tenais le volant sur l'autoroute, j'angoissais à l'idée d'avoir une crise. Sueur froide, mains moites, le corps ultra tendu. Mon regard papillonnait de la route au rétro,
rétro, tableau de bord.
J'osais pas le poser trop longtemps devant moi de peur que les pointillés déconnent à nouveau. Faire de la route, c'est devenu hyper éprouvant, surtout quand j'avais des passagers. Certains potes étaient au courant, mais j'osais pas trop le dire. Je louvoyais, je m'arrangeais pour conduire avant l'autoroute pour passer le volant à quelqu'un d'autre au bon moment. J'ai aussi beaucoup vanté le charme des routes pittoresques. Depuis, ça s'est un peu calmé. J'ai commencé par faire des petits bouts d'autoroute toute seule, quand il n'y a pas trop de monde. Puis je vais pas très vite. J'ai trouvé une vieille voiture qui va à mon rythme. Puis là où j'habite, il n'y a pas l'autoroute, c'est la campagne. Il y a plein de raisons de ralentir. Le verglas, la pluie, le brouillard, un beau coucher de soleil, un rapace en vol, la voiture d'une copine qui arrive en face. Et quand il fait humide, la nuit, on se slalome entre les crapauds.
Sur le démarreur, quand gronde le moteur, un œil vers le rétroviseur, je file, je suis contente. En regardant le compteur, vous changez de couleur et je ris de votre pâleur. On roule à 140. je ne comprends pas. Mais qu'avez-vous fait de votre belle assurance? Quand vous me parliez tout bas, vous vouliez m'embrasser avec tant d'insolence. Vous n'êtes qu'un beau parleur et je veux vous faire peur. J'appuie sur l'accélérateur, on roule à 150. Quoi, vous avez mal au cœur, ça passera tout à l'heure. Que pensez-vous de votre chauffeur? On roule à 150. Non, je n'ai pas mon permis, mais il faut bien qu'un jour je commence à apprendre. Donc, pourquoi pas aujourd'hui, on ne fait qu'un petit tour, on ne roule qu'à 160. Non mais regardez-le, il est tout blanc. Mais n'ayez pas peur comme ça. Bon, j'irai un peu plus doucement. Quoi? La flèche pour doubler? Quelle flèche? C'est que ça. Ah, et s'il y a un feu rouge? N'ouvrez pas la portière comme ça, enfin c'est dangereux. Mais revenez, Roger, mais revenez, Roger.
J'aurais pas dû prendre cette route, il y a trop de monde. En plus, c'est les vacances là, ils sont tous là. Je suis sûre que c'est une rouge. Ça, je suis sûre que c'est une rouge.
J'aime pas les animaux écrasés, c'est dégueulasse. Je suis peut-être pas normale, mais je crois que ça y est, je ne me sens plus coupable. Les psychiatres appellent ça de l'agoraphobie avec trouble panique, ou encore de l'amaxophobie. Ça, c'est la petite case spécifique qu'on réserve aux troubles liés à la bagnole. Moi, je trouve ça étrange de compartimenter les troubles à ce point. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois, une guérisseuse. Elle m'a ouvert d'autres pistes. Elle m'a dit que j'avais un cerveau fragmenté et que c'était physiologique, que je pouvais rien y faire. Il paraît que mes deux hémisphères du cerveau ont du mal avec la synchronisation. Je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais été capable de rattraper un ballon.
Tu vois, ça c'est un peu la pire configuration qui peut m'arriver parce que ça descend à mort, là j'aime pas quand il y a des grandes descentes comme ça. Ça me fait un effet, j'ai l'impression d'être dans... Je me sens aspirée par la route quoi, c'est... j'ai l'impression d'être dans un grand 8. J'ai l'estomac qui remonte là. Surtout quand il y a un connard comme ça qui me suit derrière et qui me double pas alors qu'il peut... T'as la place là! Pourquoi tu doubles pas, couillon? Double! Mais double!
J'ai plus ou moins appris à composer avec cette perception défaillante, notamment dans les gestes de la vie quotidienne. Mais dès qu'on rajoute de la vitesse, j'y arrive plus. En voiture, je pense que c'est ça. Passer une certaine vitesse, 70 ou 80 km/h, tout se brouille. Les perspectives se tordent. Et je ressens un vertige. Un vertige horizontal. Je me sens pris en chasse et j'ai l'impression d'être une biche au milieu d'une battue.
Elle pourrait... Si elle pourrait fermer les yeux et puis... Puis elle tombe à côté de la route. C'est pas du tout une bonne idée.
C'est ma voiture à moi. Je serre fort le volant et je monte le son. Du gros hip-hop. je suis adulte. Je file, j'accélère. Les virages, je les avale, je les engloutis.
Rosa!
Ah! Oh là là!
Putain, mais qu'est-ce que tu fous?
Je sais pas, mais. Je crois que j'ai.
Tu t'es endormi là en fait.
Ah ouais, je crois que je me suis endormi.
Putain. Mais dis, on s'arrête, tu veux pas t'arrêter sur un côté? Enfin, c'est vachement flippant, Rosa, de s'endormir en volant quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Je t'ai posé la question en plus il y a 30 secondes.
Tu sais, j'étais fatiguée.
Ouais.
Ouais, je sais pas ce qui s'est. En fait, je me suis pas vue. Ouais, je suis désolée.
Ouais, je vous ai bien vu dans l'art, meuf. Attention, enfin je suis désolé de prendre comme ça, mais fais gaffe quoi.
Mmh. Attends, je vais me garer là. Ok.
Ça me saoule les gens qui conduisent mal quoi. C'est quand même important, je sais pas. T'es au volant, t'as des gens aussi bien à côté, j'en sais rien quoi.
En vérité, j'ai jamais eu de voiture à moi. Pourtant, ça fait 10 ans que j'ai le permis. Et depuis le début, j'ai toujours été victime de somnolence au volant. C'est une enfant qui a peur de prendre des risques et qui dépend de la liberté des autres. Conduire me pompe la plupart du temps toute mon énergie. Et pourtant, j'aime ça. Mais ça me lessive. Pour maintenir une conduite vigilante, faut que je me plonge dans un état de stress permanent. Si je ne suis pas stressée au volant, mon esprit se balade. Si mon esprit se balade, je perds mon attention, je fais des bêtises, et cela devient dangereux. Pour me maintenir dans un état de stress, je visualise des scènes d'accidents et de morts au volant en me disant que cela peut m'arriver. Et ça, je le fais sur des longs trajets. Je vais pas le faire en ville ou si je roule comme ça une heure. Et je le fais, par exemple, à un moment j'ai été amenée à faire beaucoup de trajets entre Paris et Toulouse où j'étais toute seule à conduire sur 8 heures. Et là je le fais. Je me stresse moi-même. Et en réalité, je sais pas si je visualise ces scènes sanguinolentes volontairement pour me maintenir dans un état de stress, ou bien si ces images viennent me visiter et me permettre de rester concentrée suite aux derniers accidents que j'ai pu rencontrer en fait sur mon passage. Je crois que j'ai un peu peur de la voiture.
Novembre 2011. Nuit. Twingo Bordeaux, qui ne s'appelle pas encore Courtenay. Objet. Histoire de bagnole. Boîte en ferraille montée sur 4 roues, qui file à folle allure en rasant le bitume. 2005. Ça commence aussi la nuit dans une voiture. Twingo verte. Sur les aires d'autoroute de banlieue parisienne, à défaut d'autres, on rêve d'ailleurs, on imagine. Une petite route du Delaware, un lac gelé, du café. Autre nuit, autre voiture, Clio rouge. Un premier baiser sur le côté sauvage. Puis tous les soirs, dans une voiture ou dans l'autre, garé dans ma rue, dans sa rue. Soirée voiture dans la fumée des cigarettes. Les mois s'agglutinent. 2006. Dans une voiture, Clio blanche, sur un parking, il ne veut pas me faire l'amour. Peur qu'on nous voit. Les années s'agglutinent. 2008. Il ne veut pas monter dans une voiture avec moi et filer jusqu'en Grèce, fuir la pluie qui tombe infatigablement sur le talon de la botte italienne. Peur de la route qu'on ne connaît pas. Un jour, il me fait un cadeau dans mon ventre. La conviction qu'il est dangereux de conduire la nuit, seule. Tu vas où ? Tu vas à Paris ? La nuit ? Toute seule ? Elle est vieille ta voiture, fais attention. T'as pas peur que ta voiture elle te lâche ? Elle va te lâcher un de ces jours, fais attention. Comment tu fais si tu dois changer une roue toute seule sur l'autoroute ? Elle est vieille ta voiture, fais gaffe, fais attention. Toute seule comme ça, fais gaffe, fais attention. Elle va te lâcher. Elle va te lâcher bientôt, toute seule, fais attention. Attention. La nuit, seule, dans la voiture, je le sens. Putain. Drôle de sensation dans le bas du crâne, jusque dans les épaules. Putain, j'ai crevé. Périph parisien, gorge serrée. Putain, j'ai crevé. A104, bras mou. A1, j'ai crevé. A3, chorégraphie. Mettre le clignotant à droite. Garer la voiture sur le bas-côté. Mettre les warnings. Arrêter la voiture. Sortir de la voiture face aux autres voitures qui filent. Chercher la roue malade. Une. Deux. Deux. Peur de regarder les roues qui sont du côté de l'autoroute. Se forcer. Vérifier les roues, une à une. Trois. Quatre. Pas rien. Remonter dans la voiture. Une grande respiration. Repartir. Et 10 minutes après, putain, recommencer. Combien d'années à danser cette danse-là, à chercher désespérément une roue crevée. Les années s'agglutinent. 2010. Un jour, il prend ses affaires et s'en va avec son cœur en sang. Irrépressible besoin de fuir, de tout laisser là. Tailler la route, seul. Je monte dans la voiture. Twingo verte. A104. Il est dangereux de conduire seul, la nuit. Drôle de sensation, dans le bas du crâne. A1. Et le jour aussi. Jusque dans les épaules. Et le jour aussi. Gorge serrée. Non. A86. Putain. Non. Bras mou. Non. Je décide que... non. Que la danse est finie. Je laisse la peur là. Sous un pont de l'A86. Quelque part au nord de Paris. Depuis, j'évite de passer par là. De peur qu'elle n'essaye de remonter dans la voiture.
Ça marche bien, ouais, ça marche mieux, ouais, ça ne marche plus. Ouais. Elle le suit bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, 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 tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder devant mieux, mieux, mieux pour qu'elle marche encore mieux. Elle marchera mieux, 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 encore mieux. Ma nouvelle voiture, elle roulera mieux, 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 encore mieux. Ma nouvelle voiture, je nettoierai les bougies. Je visserai deux, trois boulons ronds, ronds pour que le moteur tourne rond. Elle marchera mieux. Mieux, 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 tellement mieux. Ma nouvelle voiture, elle roulerait mieux, 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 tellement mieux. Ma nouvelle voiture, si j'avais repissé les pièces. Oui, mais voilà, je ne sais plus, plus, plus. Et maintenant, elle ne marche plus. Elle ne marche plus, 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 vraiment plus. Ma nouvelle voiture, elle roule plus, 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 vraiment plus. Ma nouvelle voiture, je me demande ce qu'elle a. Et puis, à la fin, j'en ai marre, marre, marre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est marre, elle marche toute seule. Elle va toute seule, elle va toute seule, elle va toute seule.
On entend la rivière. C'est trop bien. Donc, nous sommes dans le parc de la Vanoise. Et on est vraiment dans le fin fond d'un vallon. Et juste au-dessus de notre chalet, il y a un chemin qui part pour aller bah, dans la montagne. Et qui, bon, qui a un gros chemin de randonnée, quoi. Et du coup, ben, au-dessus du chalet, à 100 mètres, on dirait, on peut dire un truc comme ça, peut-être, non, peut-être 500 mètres plutôt, un truc comme ça, il y a encore trois petits chalets, trois, quatre petits chalets et la source d'eau potable. Et du coup, ce matin, j'ai voulu aller chercher de l'eau à la source. J'ai voulu y aller avec mon camion. Pour expliquer un petit peu ces petits chalets là en haut, eh ben, ils sont à flanc de montagne. Forcément, comme sur une montagne, le petit chemin, bah, il est à flanc de montagne aussi. Donc d'un côté, bah, il y a la montagne qui monte et de l'autre côté, bah, il y a le ravin, quoi. Du coup, je monte avec mon camion et puis je me dis que je vais d'abord lui faire demi-tour. Comme ça, je serai calée pour redescendre et puis après, j'irai remplir les bidons et tout ça. Donc, je commence à faire mon demi-tour et il se trouve que j'ai mal évalué la place que j'avais pour faire demi-tour et j'ai pas du tout pris en compte que mon camion, même si je l'adore, eh ben, il braque pas du tout bien. Et que du coup, bah, il faut faire des manœuvres assez larges. Le petit détail aussi, c'est que cette nuit, il a plu à fond toute la nuit, quoi. Et donc, c'était vraiment trempé par terre. Donc, tout ça pour dire que, eh ben, que j'ai coincé mon camion. Que je l'ai coincé de manière à ce que... ben, il était quasiment retourné dans le sens qu'il fallait. J'avais besoin de reculer pour pouvoir tourner correctement et pas tomber dans le ravin et reprendre le chemin. Mais que vu que c'était mouillé et que c'était quand même en pente et du coup qu'il fallait que je recule en montée, et ben, et que mon camion était lourd, et ben, il a pas voulu. Et du coup, je me suis retrouvée à petit à petit m'approcher de plus en plus le nez du ravin jusqu'à ce qu'il y ait un moment où en fait j'avais l'impression de plus du tout avoir de possibilité de faire quoi que ce soit parce qu'il était complètement coincé et ça a été l'horreur. Et quand je freinais, il avançait limite un peu tout seul et même avec le frein à main, j'avais l'impression qu'il avançait tout seul vers le ravin et que j'arrivais pas à l'arrêter. Et quoi que je faisais, j'arrivais pas de toute façon à reculer et à mettre bien et que ben fatalement il allait tomber dans le ravin quoi. Et moi avec. Du coup, ben, j'ai eu un gros coup de chaud, de froid, de pas bien du tout. J'ai les jambes qui ont commencé à trembler, j'ai commencé à avoir envie de vomir. Et du coup j'ai quand même réussi à le stopper, enfin en tout cas à l'arrêter à vraiment. Pas loin du ravin et en me disant que là il était coincé pour toujours. Voilà. Je me suis dit, bon, allez, Sophie, fais donc autre chose, prends une pause et puis on réglera ça plus tard. Donc, déjà, je suis allée remplir mes bidons, mais donc j'étais quand même pas bien. Et puis, bah, je suis redescendue au chalet, retrouver Violette. Et voilà. Et donc, arrivée au chalet, bah, j'avais absolument besoin de fumer une cigarette et de me poser et j'étais hyper mal. J'étais vraiment pas bien du tout. Du coup, voilà. Et en fait, je voyais vraiment pas comment c'était possible que je me sorte de cette situation. Pour moi, il y avait à ce moment-là aucune possibilité. Du coup, bah forcément, on a... Enfin, voilà. Et puis, on a envisagé quand même des trucs. Hein. J'ai envisagé d'aller voir les voisins pour leur demander leur aide. En même temps, il fallait tirer le camion par l'arrière et il n'y avait aucune possibilité de faire monter un 4x4 de l'autre côté, donc c'était juste pas possible. Donc en fait, il n'y avait pas de solution. Enfin, peut-être mettre des gens pour le pousser par l'avant, pour le faire reculer, sauf qu'en fait, s'il glissait le camion, et ben déjà, bon, bah, le camion c'était mort et en plus, il allait écraser tous les gens qui étaient devant, donc c'était encore pire. Après, on a pensé à aller voir dans la grange s'il y avait des planches pour pouvoir mettre des planches d'une manière à ce que la roue de mon camion, en braquant, et ben plutôt que d'aller dans le ravin, elle passe sur la planche. Mais c'était quand même franchement incertain, très très dangereux et un peu fou, quoi, comme solution. Puis après, là, avec Vio, et ben, on s'est dit, ah, mais peut-être si on déchargeait le camion, peut-être qu'il serait plus léger et qu'on pourrait aussi plus le manœuvrer. Parce que du coup, dans le camion, à l'arrière, il y a un lit, il y a des caisses, enfin voilà, il est un peu lourd. Et puis, on s'est aussi dit que ce qu'il faudrait, ce serait qu'il fasse super beau toute la journée pour que ça sèche aussi et pour pas qu'il patine. Donc Violette, elle est venue avec moi en me disant « Bon, allez, on va aller voir, on va se rendre compte. » Ah oui, parce que je voulais pas aussi qu'elle monte sans moi, parce que j'avais peur que mon camion soit instable et que le frein à main tienne pas ou qu'il y ait un truc et que ça l'écrabouille. Ou que, parce que j'avais l'impression aussi qu'il était positionné de manière à ce que le bas-côté de la route, où la roue qui allait aller dans le vide, elle était, qui n'était pas stable. Et je pensais que le terrain, il allait s'écrouler aussi. Enfin, bref, c'est pour ça que c'était un peu urgent aussi, c'est que j'avais peur que tout s'écroule. Donc, je ne voulais pas qu'elle y aille toute seule. Donc, bon, on a fini par y remonter toutes les deux. On a évalué la situation. Et franchement, c'était cool parce que Violette, elle était hyper calme et qu'elle me disait « Bon, allez, ça va le faire. » Donc voilà, donc on a un peu sécurisé le terrain. On a mis des pierres devant les roues de devant pour éviter que le camion s'emballe et parte tout seul dans la pente. Et ben, on a vidé le camion pour l'alléger. Puis après, je me suis mis dans le camion. Puis après, la Violette, elle m'a fait « Ah ouais, c'est comme dans Thelma et Louise. » Alors, c'était la petite blague. Donc, gros suspense de est-ce que ça va marcher ou pas. Puis en fait, j'ai reculé et puis en fait, ça marchait. Et il est sorti du premier coup. Et du coup, au moment où il a reculé, où je me suis dit, ça y est, je suis sauvée, j'ai sauvé mon camion, et ben la pression, elle est tout redescendue d'un coup. Et là, j'avais envie de pleurer. Et c'était un peu comme une crise d'euphorie bizarre, de gros relâchement, enfin, bref. Et j'étais toujours pas très bien, mais tellement soulagée. Donc voilà, après on a remis les affaires dans le camion et puis on est redescendu. Et puis après Violette, elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de faire MacGyver. Voilà. C'est la fin de l'histoire de moi qui ai failli mourir. Par rapport au voisin, là, ce qui me faisait flipper, là, c'est que en fait j'avais hyper peur que du coup il y ait toute une bande de gros gars qui viennent et qu'en fait ils veuillent absolument se mettre à la place du conducteur et faire la manœuvre à ma place. Et que j'étais persuadée que s'il y avait quelqu'un d'autre qui montait à ma place, il allait forcément foutre le camion dans le ravin et se tuer en même temps avec. Oui, parce que c'est ça aussi, je me suis dit, bon, s'il part, comment je fais? Il faut que je saute quand je commence à sentir qu'il est en train de partir. Parce que aussi la question c'était ça, est-ce que tu mets ta ceinture ou pas? Parce que soit tu sautes, soit tu te dis je saute, et tu prends le risque de pas sauter, et t'es mort. Et sinon, bah ouais, mais enfin, t'es quand même peut-être un peu moins mort sans la ceinture, j'en sais rien. Non, quand même, là, j'étais morte, je pense.
Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une Audi, il aura la femme.
Oh, c'est pas banal.
Sur quelques 15 000 taxis parisiens, on comptait, voici un an, à peine 70 chauffeurs femmes. On en compte 500 aujourd'hui. Ce qui n'est pas pour déplaire à la clientèle masculine. Ainsi, le fait est là, absolu, officiel, la femme s'est bel et bien installée au volant. Et il nous a paru urgent de recueillir là-dessus quelques témoignages capitaux.
Monsieur, vous êtes un conducteur parisien. Voulez-vous nous dire, pour les actualités françaises, ce que vous pensez de la conduite de la femme au volant?
Oh mon Dieu, monsieur, moi j'aime les femmes partout, au volant ou ailleurs. Ainsi née la mienne, je viens de lui acheter une petite voiture d'un 1 400 000 francs.
Elle y tient beaucoup, ça fait 8 jours qu'elle l'a, elle n'a pas encore perdu la clé. J'en reviens pas.
Non! Foutez le temps d'ici!
Sinon?
Sinon, je repars mon lino avec le jus de tes couilles.
Il y a un starter, c'est si pratique. Ça me coûte 20 litres au 100, oui, je sais. Le rétroviseur, ça lui rappelle son cabinet de toilette. La boîte à gants, son armoire à linge. Elle va vite, bien sûr, parfois.
Hé, va faire les nuages, non? Oh, salopard!
Monsieur, votre opinion sur la conduite féminine?
Ah, ça me gêne un peu. Ah, je peux vous parler de ma petite amie.
Ah, elle s'en sort très bien. Jolie jambe, hein? Feu rouge, feu vert, elle mélange tout. Oh, sa conduite ne manque pas de fantaisie.
Il a l'argent, il a le pouvoir, il a une âme.
Il aura la femme.
Si ça, mais si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, ben moi je lui démate la gueule. C'est des gens, il faut les décapiter vivants, les lapider à coups de hache, et j'en fais du pâté.
Je pense que la voiture, c'est un outil qui exacerbe la schizophrénie. À chaque virage, on tombe sur une vision déformée de nous-mêmes, et pas toujours la plus reluisante. En quelques secondes, on peut passer de la contemplation la plus pure à l'agressivité la plus extrême. C'est un peu le palais des glaces. Il faut trouver la sortie.
La personne schizophrène a l'impression d'être contrôlée par une force extérieure, de ne plus être maître de sa pensée.
Ben oui, tu vois, moi c'est ça qui me rend dingue quand je suis en bagnole, c'est que je me dis, putain, mais si là je pète les plombs et que je décide de partir dans le décor avec ma voiture dans les mains, mais là je bute tout le monde, tu vois, et j'ai ce pouvoir-là de buter tout le monde, et moi ça me rend taré, quoi, tu vois, je me dis, peut-être que je suis trop empathique, ou alors peut-être que je suis ouf, je sais pas.
La schizophrénie se traduit par des contours incertains de la personnalité, voire une incertitude pour délimiter son corps physiquement.
Quel connard. Eh bien, c'est pas facile de délimiter les contours de ton être quand t'es dans une voiture à 130 km/h sur l'autoroute. Moi, je sais plus quoi faire de tous ces gens qui s'invitent dans ma voiture, alors je les laisse faire.
Mais qui ça ?
L'autoradio, c'est mon exutoire. Frénétiquement, je passe d'un univers à l'autre.
Oh là, minuit, voilà. Le dimanche.
J'aimerais... C'est possible, celui-là.
Et puis des fois, je tombe sur la musique qu'il faut et la route devient magique. Les paysages sont grandioses, la musique est parfaite. J'ai des visions et des fantasmes complètement mégalos. Je chevauche un pur sang blanc dans une robe de flanelle. Je m'en fous de tout.
Jamais, 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 jamais. Ils ne m'attraperont jamais, jamais.
J'aimerais bien conduire à poil, je crois.
Je vais me cacher dans les bois.
J'aime bien les paysages hostiles. Où l'homme n'est pas le bienvenu.
La personne schizophrène a des hallucinations.
Ne pas dormir. Ne pas dormir. Ne pas dormir.
J'ai envie de faire la guerre.
J'ai vu des poneys dans un pré et des chevreuils dans...
Ça me rassure. Il n'y a pas que moi qui suis en colère.
Ma chère Nina, je m'enregistre d'une traite, non-stop, n'ayant pas d'outils informatiques. Je t'écris à l'arrache, depuis la montagne, stop. Le seul endroit où je reviens régulièrement, stop. En pause, stop. C'est là où j'oublie tout, le reste, ici. Ici, c'est une autre vie, pause. Même la radio, stop. C'est l'hiver. Stop. Le feu, stop. L'émulation, stop. La création, stop. Je m'endors, je me pose, stop. Mois de février, stop, stop, stop. Puis je redémarrerai, sans cesse. Trace des ronds, France, sud-est, sud-ouest, ouest, grand ouest, Paris, nord, Paris, puis marche arrière, ouest, grand ouest, etc. Je roule sans arrêt, vite, doucement. Ça m'engourdit, me relaxe de la vie, je pense, comme un rêve. Les paysages, toujours nouveaux. C'est la route, c'est la vie, c'est le réseau. La soif, soif qui ne tarit jamais, qui s'avale à grande gorgée. Pourquoi toujours bouger? Pourquoi rouler, bouger, rouler, bouger, tracer? Tracer, tracer. Je ne suis pas d'ici, ni de là, ni de là-bas, ni d'ailleurs. Je ne viens nulle part et je ne vais nulle part. Le support géographique est un prétexte à se connecter, à se promener, nous tous nous relier dans une trace. Le support. Cette géographie n'a pas de limite si ce n'est mon échelle. Je veux aller partout, 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 mais je ne pourrai pas le faire. Alors, j'irai à la rencontre. J'irai à la rencontre de l'autre qui a tracé aussi dans son coin. Et il me racontera. Raconte-moi, je t'embrasse, Cécile.
Coucou Nina, je profite que tu sois sur la route pour t'envoyer un petit mot.
car tu sais, quand tu as parlé voiture, ça m'a bien inspirée. Pourtant, ça n'avait pas très bien débuté, cette relation entre elle et moi. Un permis passé 5 fois et des crises d'angoisse répétées et incomprises à chaque examen. La rencontre avec un énième moniteur d'auto-école et une petite remarque qui a débloqué la situation. « Mais oui, bien sûr, vous êtes crispé. Vous conduisez en apnée. Vous retenez votre respiration dès qu'il y a quelque chose de contrariant sur la route. Alors votre cerveau est moins irrigué. Vous vous tendez, vous vous tendez, vous vous tendez. Et paf ! Ça explose. Mais respirez, bon sang ! » J'ai fini par l'avoir, ce petit papier rose, et l'aventure a commencé. Apprivoiser les routes, améliorer sa conduite, gérer les créneaux, la marche arrière. La marche arrière avec remorque.
Alors si je tourne le volant
alors,
à gauche,
si je tourne le volant
la remorque,
à gauche,
la
tourne
remorque,
à droite.
Non,
tourne à droite.
Non, je braque à fond à gauche. Ok, ouais, ça le fait.
Attends, et si je veux la tourner à droite.
Je braque à gauche à fond. Et merde, je suis dans un cul-de-sac.
Non, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te raconter la masturbation en voiture. Oui, j'ai découvert ça un peu malgré moi. J'ai l'habitude de conduire la main bien blottie au chaud entre mes cuisses. Et une fois, elle a glissé dans ma culotte. C'était bon. Je ne sais pas si c'était le moment ou alors la vitesse. Les images qui défilaient, donnant un autre mouvement à la cadence. Mais au moment où j'ai découvert ça, c'est devenu comme une petite drogue. Assez efficace et assez répétée à une période de ma vie. Oui, je sais. Beaucoup diraient que ça peut plutôt déboucher sur ça que sur ça. Pourtant, j'avais l'impression d'être hyper consciente et encore plus attentive à la route. L'effet était multiplié quand la voiture était lancée sur l'ascension d'une montagne. Et l'explosion de couleurs pouvait avoir lieu au moment où l'horizon apparaissait tout là-haut. Mais bien sûr, ça m'est passé. Et puis c'était pas très côte de la route tout ça. Non, je crois que je vais tester en moto. C'est quand même plus vibrant. Allez, je t'embrasse et surtout fais bonne route.
Lettre à Nina.
Attendez. Parce que je commençais à en avoir marre. Que tous ces gens se sentent si bien. Avec leur voiture, leurs vacances, leur famille. Avant, je pensais... Mais pourquoi continuent-ils à travailler? Pourquoi ne font-ils pas leur baluchon? Pourquoi ne partent-ils pas? Pour ailleurs. Nulle part. Une fois, je me suis endormi sur l'autoroute. Entre Marseille et Lyon, ces lignes qui défilent, je me suis endormi quelques instants. Et je me suis réveillé parce que ma voiture a heurté le truc du côté gauche qui sépare les deux sens. Je me suis accroché au volant, désespérément, essayant de garder les yeux ouverts, et j'ai vu. Ce n'était pas une idée, un mirage. J'ai vraiment vu. Comme si on pouvait voir le même endroit, il y a 1000 ans, ou dans 1000 ans. Cette piste de bitume de goudron, complètement lézardée, fissurée, envahie par les herbes, comme les vestiges d'une civilisation antique, inutile, délabrée. Le Parthénon, les pyramides, l'autoroute, les usines, tout était pareil. Et sur cette piste, des hommes... Des femmes, des vagabonds, un sac au bout d'un bâton sur l'épaule, marchant, comme à la fin des films de Charlot. Et pas pour aller quelque part, c'était fini.
Ah, les voitures autour de cassette. l'intérieur de la 106 blanche et pas pour aller quelque part. Ah non, pas pour aller quelque part. En haut de la montagne, garer la 106. Les nuages fusent. Il fait nuit. Qu'est-ce qu'elle fait là, la 106? Qu'est-ce que je fais là dans la 106? Pas pour aller quelque part. Ailleurs, prendre le baluchon. Peut-être la 106, c'est comme prendre le baluchon. J'insiste sur la 106 parce que j'ai toujours aimé les marques de voiture. Je voulais avoir une Golf 2. J'ai toujours voulu avoir une Golf 2. Rouge. Rouge. J'ai une 106 qui s'appelle Golf 2, marquée au Posca rouge. Sûrement que j'ai voulu avoir une Golf 2 à l'époque où la voiture était un fantasme. L'idée du style, un bras du style avec ma voiture. Et à un moment donné, la voiture, c'est plus un fantasme, c'est un outil, c'est nécessaire. Pour partir, pour aller nulle part. Quand j'ai acheté la 106, c'était comme un choix très fort. Et faire le choix de ne pas choisir, de pouvoir prendre la route tout le temps. Prendre la route tout le temps, c'est aussi pas choisir. Mais c'était le choix de pouvoir ne pas choisir. D'être là, là-haut, maintenant. Au col de Joux, dans les Pyrénées, avec les nuages qui fusent. Qui vont droit, droit. Ils choisissent pas. Prendre les routes des cols. Qui tournent. Mais moi, je les prends vite. Et oui, Nina, moi, je les prends vite. Toi, tu les prends pour aller doucement. Parce que justement, ces chemins de traverse te permettent d'aller doucement. Moi, je les prends pour aller plus vite. Et puis m'arrêter, regarder les nuages qui fusent. Ils vont vite. Il paraît que c'est le vent de Moscou-Paris. Comme le Transsibérien. Dans la 106, comme dans le Transsibérien.
Chère toute, je sais bien qu'elle est dense, mon histoire avec la voiture. Ça peut être même indigeste parfois. Je suis sûre que vous devez penser, mais pourquoi tu t'infliges tout ça? Pourquoi tu délègues pas cette responsabilité de conduire aux autres? La vérité, c'est qu'il y a une raison très profonde et ancrée, et qui va bien au-delà des considérations pratico-pratiques, genre « j'habite à la montagne et il me faut une voiture pour me déplacer », blablabla. Non. La cause de mon acharnement, et par là même de ma frustration et de mon malheur, elle est tout autre. La route, c'est le squelette même de mon identité. J'ai tout construit autour d'elle. Je suis une succession d'autoroutes, de nationales, de petits chemins avec des stops et des priorités. Bébé, je ne pouvais m'endormir que dans une voiture. Mes parents faisaient des tours de périph' parisiens jusqu'à ce que je cède. Et enfant, j'aimais plus que tous les longs trajets pour aller en Espagne, dans lesquels je pouvais projeter sur les vitres de la voiture les fantasmes de ce que serait plus tard ma vie d'adulte. Et puis il y a eu l'électrochoc de l'adolescence. J'ai ouvert les livres de Ginsberg, Cassady, Kerouac. J'ai découvert les road movies, et je m'en suis jamais remis. J'y ai trouvé l'expression parfaite de cette quête brûlante que je ressentais déjà dans ma chair. Ce désir d'horizon toujours changeant, de drogue, d'alcool, de poésie, de sexe, de jeunesse flamboyante, de subversion. Une fuite en avant chaotique et féconde. J'ai su que ce serait aussi ma manière de traverser la vie. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je crois que je regrette pas. Même si ces 15 ans de nomadisme m'ont usé, m'ont éparpillé, il y a tellement de morceaux de moi partout que je me demande si j'ai pas perdu des pièces. Malgré ça, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie sur les routes. Des souvenirs si forts que je peux encore me rappeler parfaitement les odeurs, les bruits, les couleurs. Alors malgré ma peur viscérale de conduire, je me lance chaque jour sur la route, mon coffre plein de tous mes bagages. Le monde va trop vite pour moi. Sur la route, j'ai du mal à trouver ma place. Je suis inapte au travail, à la sédentarité, à la rigueur. Je suis une jouisseuse, une gourmande, une rêveuse, une sauvage. J'ai encore soif de grands espaces, alors moi et John, John et moi, on va mettre le son à fond et on va continuer notre errance, jusqu'à trouver le bon parking ou le bon platane. Mais en tout cas, ce sera lumineux, je vous promets. Merci infiniment pour vos lettres. Nina. We'll be right back.
yes, innocent. But the butcher is a monster. Good God, he's not a natural man. The dealer for Nickelodeon will sell you lots of sweet dreams.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.